Liban. Anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Hassan Salamé.
Épisode 3, 1975, la guerre civile et la question palestinienne.
Pourquoi les Libanais sont tous armés? Parce que malheureusement, nous avons été débordés par une nuée d'étrangers qui sont venus presque occuper notre pays. Pierre Gemayel, chef des phalanges chrétiennes, le 13 avril 1975. Hassan Salamé, on prolonge notre conversation ensemble. On est à un moment majeur et capital de l'histoire de ce pays, le Liban. On est le 13 avril 1975, quand ces mots sont prononcés par Pierre Gemayel dans la rue. On est 2 heures après un drame. Que vient-il de se passer à Beyrouth? Et quelle est cette nuée d'étrangers à laquelle Pierre Gemayel fait allusion?
Gemayel mentionne en fait un incident qui a eu lieu dans un quartier, dans une banlieue de Beyrouth qui s'appelle Aïn Ar-Roumani, dans laquelle un bus plein de Palestiniens qui venaient d'assister à un meeting dans un camp palestinien revenait chez eux et qui a été attaqué par les miliciens phalangistes avec la plupart des occupants de ce bus qui sont tués et qui est considéré comme la flamme qui va embraser le Liban pendant une vingtaine d'années. Mais les affaires avaient commencé plus tôt.
Oui.
En réalité, les Palestiniens se sont installés au Liban dès 1966. Il y a eu déjà des confrontations entre l'armée libanaise et les Palestiniens en 1969, qui avaient conduit à l'accord du Caire, mais également en 1973 et de nouveau en 1975, ce qui est le début de cette guerre qui va durer très longtemps.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que l'accord du Caire indiquait que les Palestiniens étaient maîtres chez eux dans les camps, mais qu'ils ne pouvaient pas sortir des camps. Mais les Palestiniens ont eu tendance à sortir entre les camps, puis à sortir hors des camps. Puis l'état-major a été établi dans des quartiers résidentiels libanais qui n'avaient rien à voir avec les camps, notamment la région qu'on appelle la région de l'université arabe, etc., etc. Et puis il y a eu un moment où l'armée s'est divisée et où l'armée a reconnu qu'elle n'avait pas les moyens de confronter l'OLP. Donc elle a laissé faire, peut-être qu'elle a été même complice, dans l'armement de milices hostiles à la présence palestinienne, à partir de la fin des années 1960, y compris les milices chrétiennes. Elles n'étaient pas uniquement chrétiennes, mais elles étaient majoritairement chrétiennes, et elles avaient pour objectif de contenir, voire d'éradiquer, cette influence insupportable à leurs yeux, qu'exerçaient les Palestiniens sur la politique libanaise et sur la souveraineté du pays. Il est vrai que les Libanais avaient fait une énorme concession qu'ils regretteront beaucoup dans l'accord du Caire en reconnaissant aux Palestiniens le droit de le faire. Et il est vrai aussi que les Palestiniens avaient non seulement absorbé les concessions que les Libanais leur avaient fait au Caire, mais les avaient élargies outrageusement pour, en fait, dominer la politique du pays. Donc la guerre éclate ce 13 avril 1975. Il y a des États qui vont prendre fait et cause pour les Palestiniens, d'autres qui prendront fait et cause pour les milices qui sont opposées à cette présence palestinienne. Nous allons vivre entre 1975 et 1982. Donc pendant 7 ans, une guerre libano-palestinienne qui est du côté palestinien soutenue par des milices, notamment musulmanes, et du côté chrétien soutenue par des milices chrétiennes à laquelle vont apporter leur soutien des pays occidentaux, puis à un moment Israël lui-même.
On va y revenir parce que ça, c'est évidemment majeur pour comprendre aussi la situation d'aujourd'hui. Mais pour être bien clair, il ne faut pas imaginer que c'est les Palestiniens contre le Liban. Il y a au sein du Liban, vous avez parlé de musulmans, au sein du Liban, des lignes de fracture complexes. Il y a des alliés des Palestiniens libanais.
Ah, il y a des alliés. Il y a des alliés massifs des Palestiniens. Il y a d'abord des milices qui représentent des courants musulmans, qui considèrent que le pacte national dont vous parliez dans un épisode précédent était insuffisant et qu'il fallait le revoir pour donner une plus grande place aux musulmans dans la guerre. Donc, il croyait pouvoir manipuler les Palestiniens comme une espèce de garde-corps des notables musulmans qui voulaient revoir le pacte national à leur profit. Puis, vous aviez des raisons idéologiques. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans qui soutenaient les Palestiniens parce qu'ils considéraient que moralement et légalement, les Palestiniens avaient été spoliés de leur territoire par la création de l'État d'Israël et qu'ils devaient être compensés, qu'ils devaient disposer d'un État qui était le leur et qu'il était du devoir de ces Libanais-là de les soutenir pour des raisons morales et politiques, même s'ils remettaient en cause la souveraineté de ce pays. Et je dois avouer personnellement que je n'étais pas entièrement insensible à cette thèse. Et il y avait aussi des gens qui soutenaient pour des raisons aussi financières. Au moment où l'OLP va quitter le Liban en 1982, elle représentait à peu près le quart du PNB libanais. Donc, il y avait aussi des gens qui louaient des appartements.
Parce que justement, j'allais le dire, on est, après 73, après le choc pétrolier, cette croissance libanaise, comme dans toute la région et dans le monde entier, elle se casse à un moment donné et très violemment. Est-ce que c'est, vous avez commencé à y répondre, c'est un facteur aussi de cette conflictualité?
Je ne crois pas que le Liban ait souffert de ce qui est arrivé au niveau global. Je crois que le Liban a souffert énormément de la guerre. On est entré dans une économie de guerre. Mais il faut savoir que l'économie de guerre est une vraie économie. C'est-à-dire l'économie de guerre a ses ports, a ses aéroports, a ses propres entrepreneurs, a ses propres miliciens, a ses propres relations internationales. Une économie de guerre est aussi complexe qu'une économie normale. Et une économie de guerre s'est installée au Liban. On a vu des chefs de milices libanais venir négocier avec Bahari d'être le port d'attache d'une milice libanaise particulière. J'ai assisté dans ma jeunesse à cette négociation. On a vu les milices chrétiennes établir un aéroport rien que pour eux sur une partie du territoire à Halat. L'économie de guerre, des deux côtés d'ailleurs, est une économie aussi complexe. Elle n'est pas mafieuse seulement. Elle est une économie qui marche. Et donc, le Liban a à la fois bénéficié et souffert du fait qu'il n'avait pas d'économie formelle pendant une bonne vingtaine d'années.
Et j'ai lu aussi que dans le sud Liban, en 74, donc juste avant le déclenchement de la guerre, c'est pas encore le Hezbollah, mais des milices chiites se structurent. C'est le mouvement Amal.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiites?
Ils ne font rien du tout. Ils sont comme les autres musulmans. Il y a des milices, chaque communauté s'est dotée de sa milice. Donc
mais les chiites, parce qu'on dit toujours les chiites, ils arrivent d'Iran, mais ils arrivent d'où ceux-là?
C'est de vrais Libanais. C'est des vrais Libanais qui ont été rattachés au Mont Liban en 1920, pour certains contre leur volonté, pour d'autres avec leur résignation, mais qui sont des citoyens libanais comme les autres. Et comme les maronites avec les phalanges et les druzes avec le PSP, les sunnites avec les mourabitounes, les chiites n'étaient pas différents des autres. C'était des citoyens libanais qui s'étaient eux aussi dotés de leur propre milice, qui à l'époque s'appelait Amal, effectivement.
Comment la communauté internationale va réagir au déclenchement de cette guerre civile? Parce qu'on le raconte depuis les premiers épisodes, la communauté internationale a un œil spécifique, spécial, quasiment particulier sur le Liban. Comment est-ce qu'elle réagit? La France, par exemple, mais aussi Israël, pays frontalier et qui est vraiment, qui pour le coup est en première ligne de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière nord.
J'ai de la peine à citer mon ami Pierre Asner. Pierre Asner, qui enseignait avec moi à Sciences Po, a toujours dit que la première caractéristique de la communauté internationale, c'est qu'elle n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas, monsieur. Et c'est un diplomate qui a servi l'ONU qui vous le dit. Ce qui est sûr, c'est que des pays se sont alignés sur une position ou sur l'autre. Les Israéliens sont très vite entrés dans une logique double, contrairement à ce que disent beaucoup des commentateurs que j'entends à l'heure actuelle. Ils se sont entrés en contact direct avec les milices chrétiennes pour les amener à combattre les Palestiniens qui étaient leur ennemi commun, mais ils sont entrés indirectement en rapport avec la Syrie. Et il y a eu un accord entre le premier ministre Yitzhak Rabin et le président syrien Hafez al-Assad pour qu'il y ait une espèce de modus vivendi que les deux parties ne se confrontent pas au Liban. Les Syriens ont accepté que le ciel libanais reste israélien et les Israéliens ont accepté que sur le reste du Liban, les Syriens aient une espèce de position privilégiée d'influence.
On est en quelle année là?
On est en 1976. Donc, il n'y a pas Il y a l'histoire connue du soutien israélien à Béchir Gemayel et aux Maronites.
On y reviendra dans l'épisode prochain.
Mais il y a aussi l'accord traficoté par les Américains entre les Israéliens et la Syrie à cette époque-là. Et les deux vont avoir un impact long. L'accord avec les Maronites va aboutir à l'élection de Béchir Gemayel, à une espèce d'imposition, à une invasion, de première invasion du Liban en 1982 par l'armée de Begin et d'Ariel Sharon. Mais l'accord avec les Syriens va marquer énormément les limites du déploiement de l'armée syrienne qui se sont toujours arrêtées à la rivière Awali, à 60 km de la frontière israélienne, mais aussi à l'activisme aérien israélien qui n'a pas cessé depuis.
On reviendra évidemment sur 82, l'invasion du Liban par Israël, mais il y a d'abord l'opération Litani. Il y a une première entrée.
Exact, en 1978,
ouais.
Qui donne naissance à la fameuse résolution 425. Mon premier rôle au service du gouvernement libanais était d'être membre de la commission pour l'application de la résolution 425, c'est-à-dire la résolution que le Conseil de sécurité a adoptée pour la création de ce qui va être la FINUL et pour la première intervention officielle du Conseil de sécurité dans le conflit libano-israélien.
Juste un mot quand même sur cette opération Litani. Les troupes israéliennes envahissent le sud Liban après un attentat palestinien à Tel Aviv. Donc, ce qui intéresse les Israéliens à l'époque, c'est pas le Liban, c'est la résistance ou le terrorisme, comme on l'appelle à l'époque, palestinien.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Allez-y. Ne vous arrêtez pas à ce genre d'argumentaire. Dans cette région du monde, on trouve toujours un argument ou une excuse pour faire une opération. Généralement, les opérations sont préparées longtemps à l'avance et on cherche un prétexte, mais pas une raison ni une excuse. Donc, dans ce cas-là, il y avait une décision antérieure à mars 1978 de l'état-major israélien d'envahir le pays et de punir l'OLP. Ce qui était prévisible, il y a même la presse de l'époque pratiquement l'annoncé avant même qu'il y ait eu cet attentat qui a été pris comme prétexte pour cette invasion. Et ça va se répéter indéfiniment. C'est-à-dire, les partis au Moyen-Orient cherchent toujours un prétexte. Mmh. Ah, il m'a attaqué hier.
Quitte, m'a à, envoyé un quitte à le provoquer.
Quitte à le provoquer, ouais. Parfois. Mais c'est généralement des stratégies beaucoup plus long terme. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que les Français comprennent. Les Moyen-Orientaux ne sont pas moins rationnels qu'eux. L'idée que la raison a pris pour résidence l'Europe et que la passion est devenue le propre des Moyen-Orientaux est une des idées les plus bêtes que j'ai jamais entendues.
Allez, un mot pour terminer l'épisode sur la FINUL.
Oui.
Parce qu'elle est encore là, la FINUL. C'était en 78. Vous avez dit que vous avez travaillé sur ce sujet. Vous avez dit que la communauté internationale n'existait pas. Là, elle a un peu existé. Même si la FINUL, c'est beaucoup des Français, beaucoup des Occidentaux. Qu'est-ce que ça raconte de...
Il y a plusieurs âges à la FINUL.
Alors,
on a essayé de la renforcer. Elle est née en 1978 et pendant toutes ces décennies, on a essayé de la renforcer par des résolutions successives en 1982, puis de nouveau en 2000, puis de nouveau en 2006, sans beaucoup de succès. Mm-hmm. Ce qui indique à la fois deux choses. La complexité du conflit qui existe au Liban Sud, mais aussi l'impuissance des organisations internationales à avoir beaucoup d'effets sur ce conflit en particulier.
Oui.
Ce conflit est encore plus immune à l'action des Nations Unies que les autres conflits dans le monde.
Pourquoi ?
Parce qu'il a quelques spécificités, parce qu'il a notamment une charge émotionnelle énormément forte qui intéresse, ouais, le juif de Brooklyn, qui intéresse le musulman de Kuala Lumpur, qui intéresse le catholique de Milan ou de je ne sais où.
C'est ça le miracle libanais ?
Non, c'est que c'est une région...
Ou le drame libanais.
C'est une région qui est condamnée par les deux qu'elle a elle-même enfantée.
Un mot de bilan humain terrible de cette guerre. À la fin de l'année 76, donc un an et demi seulement après le début de la guerre, déjà 30 000 morts,
oui,
et 600 000 réfugiés.
Oui, et certains ne reviendront jamais. Parce qu'en réalité, les Libanais, d'ailleurs le général Gouraud, dans votre premier épisode, il faisait référence, parce que l'immigration libanaise a commencé, oui, autour de 1880. Les Libanais, à cause de cette guerre, peut-être les meilleurs d'entre eux, choisiront le chemin de l'exil. J'ai un peu un scrupule à avouer que j'étais l'un d'eux.
La guerre civile se prolongera avec une année majeure et capitale pour comprendre aussi le monde d'aujourd'hui. Cette année, c'est l'année 1982. C'est la prochaine date qui ouvrira l'épisode suivant de notre podcast. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.